C'est donc si passionnant l'histoire.
C'est la science par excellence qui nous enseigne le vrai gouvernement des hommes et du monde.
Islam, empire et djihad.
Dirais donc tes batailles, tes conquêtes, dont le bruit étonne l'univers.
Bravo ! Et encore ?
Le passé et l'avenir se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Je dirais donc, ayant conquis le monde, tu le perdras.
Nous sommes autour de l'an 1400 quand a lieu ce débat entre Tamerlan, le conquérant, et Imr al-Dun, le grand philosophe musulman de l'histoire. Musulman ou non, les empires conquièrent le monde et le perdent toujours. Passé et présent se ressemblent. Nous sommes maintenant à l'aube du troisième millénaire et peut-être les générations qui viennent vont-elles connaître un renouveau des conditions impériales. Avec la globalisation et quelles que soient les différences de régime politique et social, notre monde constitue en effet un seul empire. Nous l'appelons l'humanité. Dans les assemblées internationales, on est tenu de parler un langage lissé. Les efforts des uns et des autres tendent à améliorer le mode de vie. L'urbanisation, la scolarisation, le contrôle de la fécondité progressent. Mais voilà qu'un mouvement qui s'affiche clairement archaïque veut enfoncer les portes de la modernité et ce n'était pas prévu à notre programme. Imr al-Dun avait pourtant prévenu « Lorsque les empires se laissent vieillir et que tombe le jour, l'ombre des montagnes avance ». Il utilisait aussi une autre image. « Aux marges, disait-il, les Bédouins dirigent leurs flèches contre le centre ». Tant que les Bédouins restent fragmentés par leur position géographique, sociale, religieuse éclatée, l'Empire peut encore s'assoupir tranquille. Mais aujourd'hui, l'extension rapide de l'idéologie du djihad change la donne. C'est une idéologie qui utilise un langage complètement contraire au langage contemporain, à notre empire consensuel, et c'est ça qui fait sa force. Et le faible nombre de ses combattants compte moins que son recrutement très large dans des dizaines de nationalités un peu partout dans le monde. Les dissidences de notre empire consensuel ne sont-elles pas en train de trouver un langage commun ?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Eh bien, quel programme, Gabriel Martinez-Gros.
Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour. Vous contribuez à un très intéressant atlas des empires que publie, c'est un numéro hors série, en commun, Le Monde et la ville. Et puis, aux presses universitaires de France, un texte fort, Fascination du djihad. C'est pas facile d'être un musulman aujourd'hui. Beaucoup de nos concitoyens le savent. C'est pas non plus très facile d'être un historien de l'islam comme vous, parce que vous vivez une condition malheureuse. Partagée d'ailleurs avec un certain nombre de vos confrères, sauf que il n'y a pas vraiment accord de vue souvent entre les spécialistes de l'islam aujourd'hui.
C'est vrai. C'est une position, c'est un métier qui devient particulièrement difficile où beaucoup cherchent d'abord à savoir ce qu'il ne faut pas dire plutôt que ce qu'il faut dire, ce qu'il est intéressant, fructueux le cas échéant de dire. Mais je suis heureux de partager avec vous et avec les auditeurs un peu de mon malaise aujourd'hui.
Et on ne va pas entendre de rhétorique creuse dans votre bouche.
J'espère que non. Avec vous, ça ne risque pas.
Alors vous avez participer à la troisième partie de l'Atlas des empires qui est consacrée aux empires musulmans. Alors, en islam, l'empire est contemporain du développement de la religion. Vous me direz que c'est banal de dire ça, mais enfin, c'est toujours intéressant de le redire. Alors que, je sais pas, dans le cas de Rome, de la Chine, qui vous intéresse beaucoup, l'empire est antécédent à la religion.
Tout à fait. Et donc, le plus souvent, les religions chrétiennes et bouddhistes en Chine se sont coulées dans les conditions de l'empire déjà constitué, c'est-à-dire un empire dont l'immense majorité de la population est désarmée et pacifiée. Et le pacifisme du christianisme, comme le pacifisme du bouddhisme, tient sans doute à ces conditions particulières. Je n'entends pas que le pacifisme du christianisme ou du bouddhisme se soit imposé à l'Empire. Je veux dire plutôt au contraire que l'Empire a reconnu dans ses religions pacifiques quelque chose de son propre pacifisme. Tandis qu'au contraire, L'islam, au contraire, est né d'une conquête, avec une conquête. Et donc, il y a, en effet, dans l'islam, au cœur même de la religion, une forme de violence que le bouddhisme et le christianisme n'ont pas.
Mais moi, j'ai essayé dans cette émission d'être irénique, enfin, de chercher la concorde pendant que vous, vous allez tenir un langage tranchant. Le christianisme est rendu plus violent par l'Empire, tandis que l'islam est rendu moins violent par l'Empire.
Tout à fait. Voilà. Alors, c'est ce qui fait l'intérêt de l'histoire. C'est que les principes ne suffisent pas à tout expliquer. C'est que l'histoire joue aussi un rôle, le fil, le courant des siècles joue son rôle dans le dessin de des formes sociales et des formes politiques. Dans le cas du christianisme, par exemple, contentons-nous ici de l'Europe et du christianisme, il y avait d'autres références que le christianisme. En particulier celles de l'Antiquité, qui ont permis de marginaliser au total, à partir du XVIIe siècle surtout, les formes chrétiennes et qui ont contribué à constituer l'État moderne avec sa violence revendiquée, sa violence légitime, le fameux monopole légitime de la violence de Max Weber. Tandis qu'au contraire, dans le cas de l'islam, l'Empire s'est constamment attaché à marginaliser ce que la religion lui enjoignait de violence, hein, puisque la religion enjoint à la forme politique islamique de faire le djihad, et que la plupart du temps, les empires, y compris le grand empire ottoman, hein, se sont efforcés le plus souvent de le faire le moins possible, ce djihad.
Mais revenons, si vous le voulez bien, au premier empire musulman, tel qu'il est né très rapidement, en deux générations. Les nouvelles, j'imagine, ont du mal à faire leur chemin jusqu'à l'Occident, et le premier son que je vous propose, adapté d'un téléfilm de Jean-François Delassus au temps de Charlemagne, se situe justement dans la cour de Charlemagne, et un marchand vient lui raconter, avec beaucoup de retard, comment se sont déroulées les conquêtes arabes. On est donc autour de 800, près d'un siècle, après la grande chevauchée arabe.
Au nom de la guerre sainte, les Arabes se sont emparés des trois quarts de l'Empire byzantin et de presque toute la Perse, avec une facilité qui les a eux-mêmes étonnés. Cette explosion les a conduits des déserts d'Arabie jusque vers l'Afghanistan à l'est et jusque vers l'Espagne à l'ouest. Et tout cela en moins d'un siècle. Ils y sont toujours. Les Arabes y ont vu un signe que Dieu, leur Dieu, Allah, était avec eux. Mahomet leur avait annoncé que tout guerrier mort au combat se verrait ouvrir les portes du paradis. Cela a beaucoup compté. Il est vrai surtout que les Arabes avaient l'habitude des razzias et possédaient une cavalerie légère excellente, comme votre majesté a pu le constater en Espagne. Cette conquête a été extrêmement rapide et peu coûteuse. Le phénomène dépasse Alexandre le Grand.
Donc la référence est l'espace d'Alexandre, plutôt peut-être que l'espace de Rome. Alors il y a beaucoup de cartes dans l'Atlas des empires que je citais. Vous parlez, vous aussi, Gabriel Martinez-Gros, en termes de masse démographique et pas seulement géographique.
Absolument. L'Empire abbasside aux alentours de 800, au moment de ce son, si j'ose dire, c'est à peu près 35 millions d'habitants. Hein, ça va depuis la Tunisie à l'ouest jusqu'à l'Afghanistan à l'est. L'Espagne est déjà une province indépendante, il faudrait l'ajouter si on comptait l'ensemble du monde islamique.
Tandis que ce pauvre Charlemagne, et pendant deux générations seulement, il règne sur combien de bons hommes et bonnes femmes?
Une quinzaine de millions, pense-t-on généralement. Il faut y ajouter une dizaine de millions d'habitants dans l'Empire byzantin, mais vous voyez que même les deux chrétientés mises ensemble n'équilibrent pas tout à fait l'islam. Seule la Chine l'équilibre.
Mais il y a quelque chose qui ressemble quand même, pour la structuration, à l'Empire romain. C'est l'utilisation de provinces nourricières pour abonder les richesses, le raffinement de la capitale.
Totalement. Et là, nous sommes évidemment dans la fameuse théorie d'Ibn Khaldoun, c'est-à-dire que un empire se compose fondamentalement de deux parts différentes et nettement distinctes. D'une part, une immense majorité de la population des provinces nourricières qui sont désarmées et fiscalisées, hein, qui sont soumises à l'impôt parce que l'impôt est la mobilisation principale de la richesse. et d'autre part, les fonctions de violence qui sont, puisque les sujets sont désarmés, assignées à des populations qu'on recrute, à des ethnies, à des tribus, qu'on recrute au-delà des frontières de l'Empire, étrangement. C'est-à-dire que l'Empire se sert de ses propres barbares pour assurer la part de violence qui lui est absolument nécessaire, la part minime de violence, car l'Empire, c'est la paix, fondamentalement. Hein. L'Empire préférera toujours l'ordre intérieur au désordre et surtout à l'aventure extérieure.
On s'assoit un instant dans notre chevauchée, c'est comme dans le son qu'on vient d'entendre sur Charlemagne, parce qu'il faut que vous nous expliquiez qui est Ibn Khaldoun. Alors, c'est le premier grand philosophe de l'histoire musulman, qui a précédé les philosophes de l'histoire occidentaux, mais on est bien après l'époque de Charlemagne. Il a connu plusieurs types d'empires musulmans après la ruine du premier et le déplacement du centre de gravité de Bagdad au Caire. D'ailleurs, Ibn Khaldoun, il finit sa vie
au Caire, effet. Il est né à Tunis d'une famille d'origine andalouse qui a dû quitter l'Andalous à cause de la reconquête chrétienne. Et il finit sa vie, en effet, au Caire, qui est en effet la plus grande ville du monde islamique de son temps.
Lecture d'Ibn Khaldoun, vous remarquerez dans le rôle du comédien Hamidou, qui représentait à lui seul, il y a un demi-siècle, le monde maghrébin sur la scène et sur les écrans.
Mon présent ouvrage est une histoire universelle complète. Il traite de l'histoire des Arabes et des Berbères, tant sédentaires que nomades. Il parle des grands empires contemporains de ces races et dégage clairement les leçons à tirer des causes des événements, aussi bien que des faits eux-mêmes. Je l'ai donc intitulé « Discours sur l'histoire universelle ». Je crois n'avoir rien oublié. Ni les dynasties, les religions, les villes et les villages, les puissants et les faibles, les multitudes et les minorités, les sciences et les arts, la vie sédentaire et la vie nomade, les événements passés et futurs, tout ce qui concerne la civilisation.
Je crois n'avoir rien oublié. Leitmotiv chez Ibn Khaldoun, c'est un philosophe de l'histoire, plus encore qu'un historien, les sédentaires. Le centre se sédentarise dans les empires et les nomades, les bédouins, ceux qui sont aux marges et qui ont été ceux qui ont constitué d'ailleurs la conquête au départ.
Absolument. C'est-à-dire que les sédentaires et les bédouins, ou encore, comme il le dit, les multitudes et les minorités, parce que ce sont deux synonymes, hein, les multitudes, ce sont les sédentaires, c'est-à-dire précisément ces populations désarmées, productives, cultivées, soumises, désolidarisés, qui payent l'impôt et qui sont essentiellement assignés aux fonctions de production dans l'Empire. C'est nous, en gros, hein, si vous voulez, dans notre civilisation moderne. Mais la caractéristique de l'Empire, c'est qu'il va chercher les quelques fonctions de violence qui lui sont nécessaires dans ce que Hamidou appelait dans cette traduction des nomades et ce que Ibn Khaldoun appelle plutôt des bédouins. Il faut bien voir que ces bédouins, ce ne sont pas seulement des tribus dispersées aux frontières de l'Empire. Ce sont des tribus dont l'Empire se sert pour assurer la violence qu'il ne peut pas confier à ces populations sédentaires puisqu'il les a désarmées.
Sauf que les Bédouins peuvent, au bout d'un moment, se rebeller.
Presque automatiquement, les Bédouins, dans la mesure où ils ont les armes et dans la mesure où les fonctions de violence leur appartiennent, prennent le pouvoir. Hein. La plupart du temps, les fonctions de souveraineté et les fonctions de violence vont ensemble. Ce qui reste aux autres, c'est-à-dire à l'immense majorité, 98 ou 99% de la population, c'est la vie matérielle et aussi intellectuelle et spirituelle la plus riche possible.
Alors, nous sommes ici dans le monde musulman. Vous nous avez parlé à la lumière d'Ibn Khaldoun de l'essence du fonctionnement et de l'érosion des empires. Votre point de vue, enfin, qu'on pourrait discuter, mais on n'est pas là ici pour faire une recension critique, Gabriel Martinez-Gros, c'est de dire qu'en Occident médiéval et moderne, l'Occident moderne c'est jusqu'au XVIIe siècle, la construction ne se fait pas sur la forme impériale, même s'il y a eu Charlemagne pendant deux générations, même si Byzance a ressuscité provisoirement autour de l'an 1000, il y a des monarques impériaux, notre cher Louis XIV.
Absolument.
Mais pas vraiment d'empereur.
Mais pas vraiment d'empereur parce que l'Occident s'est construit sur une absence d'impôts, ce qui est très, très étrange et ce qui distingue totalement la civilisation, la culture, l'histoire de l'Occident de celle de la Chine ou de celle du monde islamique, qui est l'héritière de l'Empire romain et qui est l'héritière de l'Empire achéménide avant lui, de l'Empire perse avant lui. Donc, en fait, en Occident, le prélèvement fiscal ou la redevance seigneuriale a été dispersée, considérablement dispersée auprès de milliers de châteaux, et elle ne se concentre pas dans une capitale. Cette capitale qui, pour Ibn Khaldoun, est absolument indispensable pour faire civilisation et pour faire empire, tout simplement parce que c'est dans cette capitale que la multiplication des ressources et la multiplication des hommes permet la diversification des métiers.
Et donc, en Occident, des souverainetés arbitrales, divisées, qui s'affrontent et s'équilibrent. Mais viennent, j'ai promis aux auditeurs une chevauchée, les révolutions occidentales de la fin du XVIIIe siècle, à commencer par la française. Vous citez le duc de Brunswick, le chef de la coalition des monarchies contre la Révolution, qui, à Valmy, dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette armée de savetiers ?» Eh oui, c'est le temps du peuple en arbre, il n'y a plus cette distinction.
Et voilà.
Et où les citoyens et les travailleurs sont en même temps les soldats. Le chant du départ, Michel Plasson, à la tête de l'orchestre de Toulouse, on entend une jeune fille former des vœux pour son frère, un citoyen. Il va revenir dans nos murailles, beau de gloire et de liberté. C'est le sang des citoyens qui coule dans les batailles pour l'égalité.
De l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Gabriel Martinez-Gros qui a apporté une importante contribution à l'Atlas des empires que publie Le Monde et La Vie. Une partie est consacrée aux empires musulmans, une partie est consacrée à l'empire tel que l'Occident le conçoit depuis la Révolution française, depuis l'épopée napoléonienne, jusqu'à la Première Guerre mondiale et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Jean Tullard dirait déjà que Napoléon, c'est la première des trois guerres mondiales, parce qu'il s'agit d'aller à la conquête de toute l'Europe et même sans doute au-delà. Et ça, ça se fait sur ce principe du citoyen producteur et défenseur ou agresseur. Et soldats.
Et soldats, et défenseurs, et agresseurs. Et ça se fait aussi, bien sûr, parce que ça ne se comprend, on ne comprendrait pas pourquoi ça arrive pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il faut bien le dire, et peut-être seulement, malheureusement, pour deux ou trois siècles. Ça arrive parce que il y a derrière ce qu'on appelle la révolution industrielle, c'est-à-dire un immense progrès économique et social qui fait que l'impôt n'est plus la seule source de la richesse. C'est-à-dire que la soumission des vastes masses n'est plus la condition absolument nécessaire du rassemblement de la richesse, comme c'était le cas dans les empires qui avaient précédé. C'est la révolution industrielle qui explique la révolution politique et qui explique que désormais on peut armer les peuples. Le premier acte des révolutions françaises ou américaines, c'est d'armer les peuples. Le premier acte de la Révolution française, c'est la constitution des gardes nationales dans l'été de 1789. Et comme vous le savez, le deuxième amendement de la constitution des États-Unis.
Non, mais j'ai promis que vous tiendriez des propos tranchants. Vous dites aussi que le nazisme appartient encore.
Ah, mais oui, bien sûr.
À l'ère de la souveraineté des peuples.
De l'ère de la souveraineté des peuples, c'est vrai. Hein, je veux dire que cette époque qui a mis au premier rang les peuples n'y a pas trouvé que des agréments, bien sûr. Hein. Les peuples et les démocraties peuvent être violentes. Aujourd'hui, il semble établi pour la plupart de nos contemporains qu'une démocratie vise au désarmement, et d'ailleurs pour une part c'est vrai, alors que historiquement c'est plutôt le contraire. Hein, les démocraties ou les révolutions ont armé les peuples, bien sûr. Hein.
Aujourd'hui, il est acquis que les démocraties virent désarmées. C'est que l'ombre de la montagne s'est avancée quand le jour tombe sur les empires occidentaux. Pendant quelques dizaines d'années, ça c'est le témoignage de Patrice Ganifet dans la Tasse des Empires, pendant quelques dizaines d'années après la Deuxième Guerre mondiale, on a vécu dans le rêve d'une Europe sans impérium, sans autre identité, je le cite, que la démocratie, est vouée à un élargissement sans fin, ce qui fait que les uns et les autres, assez tranquillement, à la fin du XXe siècle, nous avons choisi, content, satisfait d'être débarrassé de cette tâche, de nous débarrasser des armées de conscription. Jacques Chirac en 1996.
Nous avons aujourd'hui une armée de conscription, c'est-à-dire avec des militaires professionnels, des engagés, des appelés, et qui au total comprend environ 500 000 hommes et femmes. Ce qui est lourd et excessif. Et ce qui ne nous permet pas d'assurer nos missions. Vous avez vu, au moment de la guerre du Golfe, on a difficilement envoyé 10 000 hommes. L'armée professionnelle de demain, dans 6 ans, est une armée de 350 000 hommes. Mais c'est une armée qui pourra, comme les armées les meilleures du monde, comme notamment l'armée britannique, projeter, être présente de façon efficace et suffisante.
Dernier coup de canon symbolique pour le premier amas. Plus de 300 ans après sa création, le descendant des Compagnies de la Mer, créé par le cardinal Richelieu, baisse pavillon.
C'est d'abord un sentiment de fierté, c'est aussi un sentiment, je dirais, de tristesse, puisque c'est effectivement les derniers coups de canon du régiment, et que voilà, donc c'est un régiment qui a une longue histoire derrière lui. Dire que demain le régiment sera dissous, que l'aventure se termine, c'est quelque part c'est quand même un peu triste pour nous.
Décision à l'Elysée, application à Chalon-sur-Marne. C'est un son de l'an passé. Ce régiment était encore engagé dans les opérations de projection vers l'extérieur au Mali. On n'en est plus à 350 000 hommes maintenant. Et on a délégué à des soldats professionnels de plus en plus. Je ne vais pas faire une comparaison, mais vous la faites, vous, Gabriel Martinez-Gros, comme les empires musulmans délégués aux Turcs et délégués aux Mamelouks, continuer à parler arabe pendant que les populations agressives à qui étaient délégués le pouvoir de combattre parlaient turc.
Tout à fait, tout à fait. Donc, on est très très clairement en face d'une évolution impériale, bien sûr. Hein, le désarmement des immenses majorités, les progrès même de ces majorités que vous citiez au début, c'est-à-dire les progrès de la scolarisation, de l'urbanisation, la baisse de la fécondité des couples partout dans le monde, et pas seulement en Occident, amènent effectivement des pouvoirs accrus pour des minorités, ceux qui restent en charge des fonctions de violence, évidemment, et on se retrouve dans la position des empires, et cela d'autant plus que probablement les États, et surtout l'Empire universel, auront davantage besoin de contrôler leur population, c'est-à-dire que d'autant plus que les progrès économiques deviennent de plus en plus minces, de plus en plus faibles. Et au fur et à mesure qu'il devient de plus en plus mince, l'impôt redevient tout naturellement une des bases de la concentration et de la mobilisation de la richesse. C'est Piketty comme penseur impérial. Voilà.
Thomas Piketty sur les conséquences de l'inégalité croissante des revenus dans les pays occidentaux. Il y a quand même un paradoxe, un défi d'ailleurs pour les chefs de nos armées. Celles-ci sont de plus en plus composées dans les proportions croissantes d'enfants des quartiers, comme on dit.
Oui.
Entre guillemets.
Oui.
Que
c'est vrai aussi aux États-Unis.
Vous désignez, non pas les enfants, mais les quartiers, comme des lieux qui sont peut-être des lieux de dissidence.
Oui.
De dissidence des Bédouins.
Oui, et même, je vais un tout petit peu plus loin, je dis que c'est peut-être la formation d'une nouvelle aristocratie. Il y a peu de doute sur le fait que ceux qui s'engagent aujourd'hui dans l'armée française et ceux qui malheureusement font le mauvais choix, à nos yeux en tout cas, et qui vont se battre en Syrie, relèvent des mêmes milieux sociaux et presque des mêmes morales. Hein. C'est-à-dire d'une morale du combat qui a déserté la majorité de la société, il faut bien le dire.
Hein. Et c'est que là qu'aura lieu peut-être un jour une lutte fratricide.
Oui, probablement. Probablement.
Probablement. Hein.
Oui, probablement, parce que c'est à peu près ce qui s'est passé au 4e, 5e siècle de notre ère. Hein, de
ça,
part
c'est
et d'autre.
Une preuve.
Oui, absolument.
Mais vous n'êtes quand même pas convaincu que ce qui s'est passé pendant d'autres siècles, si nombreux siècles, montre que les centres peuvent attirer les périphéries.
Le
modèle du centre attirait les périphéries.
Les centres attirent les périphéries. C'est bien pourquoi les flèches des périphéries se dirigent vers le centre. Je veux dire que la meilleure manière d'arriver au centre, c'est de le conquérir. C'est pourquoi les périphéries. Si le centre n'attirait pas les périphéries, les périphéries ne joueraient pas ce rôle violent au cœur des sociétés civilisées.
Oui, mais vous allez plus loin, en fait, Gabriel Martinez-Gros. Vous dites, le centre attire peut-être la violence des périphéries, mais il ne peut pas se représenter le vocabulaire des périphéries. Parce que pour le centre, pour nous autres, de la presse démocrate, pour de forts esprits comme le président Obama, on aurait tendance à dire que le langage des périphéries, de la dissidence, c'est quoi? L'équipe de basket de 3e division.
Voilà, c'est une équipe de basket.
C'est archaïque.
C'est un mot d'Obama.
C'est
oui,
pas
oui,
possible.
Absolument. Oui, absolument. C'est vrai. L'Empire a ceci de dangereux qu'il est à peu près inévitablement aveugle. Il n'y a qu'une seule vérité qui est la sienne. Hein, c'est évident. Tous les autres sont des barbares et les barbares n'émettent que des borborygmes, comme chacun sait. Ils n'ont pas de projet politique. C'est impossible. Donc, ce ne sont que des délinquants. Où ce sont des malheureux. Mais en aucun cas, c'est un projet alternatif, hein, bien sûr. Hein. L'Empire ne supporte pas l'idée même qu'il existe un projet alternatif.
Mais la charia n'est pas un projet alternatif.
Mais c'est un projet alternatif, malheureusement. C'est un projet alternatif à peu près à tout ce que nous considérons comme central dans notre modèle sociétal. C'est un projet dont il faut ne pas négliger, ne pas hésiter à dire qu'il considère l'esclavage comme légal, dans la mesure où il s'agit de la réduction à l'esclavage des vaincus du djihad, ou plutôt de leurs femmes et de leurs enfants, parce qu'eux-mêmes sont généralement extérieurs. Qu'il considère l'inégalité des hommes et des femmes comme normale, qu'il considère la mise à mort des homosexuels comme nécessaire, etc.
C'est parce qu'elle est alternative et exactement inverse au langage du centre que pour un certain nombre de dissidents de la périphérie, sa justesse est établie et assumée. Alors vous dites, beaucoup de nations sont concernées, des dizaines de nationalités, par le combat aux côtés de Daesh, on va pas faire l'inventaire du monde entier. Il y a quand même des zones qui résistent à cette assimilation. Je sais pas, l'Amérique latine dont vous parlez souvent, au moins il y a les cartels de la drogue.
Voilà, le djihadisme n'est pas la seule forme de la violence dissidente. Il y en a d'autres, en effet, l'une des plus spectaculaires, ce sont les cartels de la drogue latino-américains.
Il serait préférable qu'elles ne deviennent pas le langage commun de toutes les dissidences.
C'est peu probable. Hein. La plupart du temps, c'est vers l'évangélisme que se tournent les cartels de la drogue latino-américains.
Merci à vous, Gabriel Martinez-Gros, l'Atlas des Empires, donc le monde de la
Merci.
Vie, et puis Fascination du djihad, votre dernier livre aux presses universitaires de France, Éric Morin à la technique, la préparation Frédéric Martin, Valérie Aïstaraï à la réalisation.